12h42, vous êtes sur les ondes de Boulevard 101. Mon nom, c'est Yann Marceau, très content de vous accompagner jusqu'à 14h. Pascal est là pour m'accompagner comme à son habitude. Elle va le faire tout l'été, à ce qu'on me dit. D'ailleurs, il y a une annonce qui a été faite sur la page Facebook de Boulevard qui est assez particulière. Je vous invite à aller voir ça, ça fait un peu réagir. Vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-101, c'est par texto. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, merci d'être nos yeux, nos oreilles, mes amis.
Ils nous ont dévalisé le canac pour être sûr que j'ai assez de terrain pour être attaché ici en studio tout l'été. Et je ne referai pas ton bruit de voiture que tu viens de nous faire en onde.
Non!
Mais je peux vous dire, par contre, que sur Félix Leclerc-Ouest, à la hauteur de l'autoroute Laurentienne, la voie de gauche est bloquée. Il y a un débris qui a été déplacé. Donc, c'est terminé comme incident, mais ça ralentit le secteur. Et c'est super compliqué aussi du côté du pont Pierre-Laporte, direction nord, depuis un petit bout. Et on nous rapportait, là, c'est plus loin de nous, par contre, là. Mais vous savez, le fameux détour du côté de Trois-Rivières, là, qui est supposé être super si jamais notre pont tombe. Là.
Le pont La Violette.
Exactement. Ben, depuis ce matin, on a une voie sur deux qui est bloquée, en fait. Donc, il y a un ralentissement sur la 40 Ouest à Trois-Rivières, mais ça fluctue, ça, de A à Z là, sur l'autoroute. Et ça nous impacte même ici.
Qu'est-ce qui s'est passé ce matin au siège social à Québec de la SAC?
Oui! Saisie, perquisition. Ouais.
Une perquisition de l'UPAC, ça faisait des semaines et des semaines qu'on en parlait, toi et moi, puis on se demandait, tu sais, l'UPAC, es-tu encore sur l'histoire des faux passeports de la pandémie? Ça serait peut-être intéressant qu'ils commencent à regarder ce qui s'est passé dans le dossier de Saclic, où on s'aperçoit qu'il y a eu énormément d'argent qui a été dépensé. On parlait de ça et de bien d'autres choses avec Victor Henriquez, qui est analyste politique. Salut Victor!
Salut Yannick, salut Pascal.
Merci d'être là. Je ne sais pas si dans ton secteur à Montréal, c'est ensoleillé, mais aujourd'hui, le ciel à Québec est triste, mon ami.
Ben ici, c'est pas pire. Non, ça s'en vient. Faites-vous-en pas. Là. Il y a du beau temps s'en vient, mais j'ai compris de toute façon, vous n'aimez pas le soleil, vous deux, parce que vous allez travailler tout l'été. Et là, j'ai vu ta photo, Yannick, sur Facebook.
Ah,
j'invite
non.
les gens à ne pas aller regarder.
Ah, merci de le dire.
Sinon, ça rend le midi un peu particulier. Oui. Alors, très content de savoir que vous allez être là toute l'été.
Penses-tu que je peux faire une mise en demeure de cette photo-là?
Oui, on a utilisé le corps de Pascal.
Ah!
Pascal, t'es responsable de à qui tu t'associes, parce que c'est ton choix.
Voilà, exactement. Est-ce que ça te surprend de voir qu'il y avait une perquisition de l'UPAC à la SAAC ce matin à Québec?
Ça me surprend agréablement, Yannick, parce que dans ce dossier de Saclic, on sait que plus on en apprend, plus c'est nébuleux. On sait qu'il y a une commission d'enquête qui est en place, qui va au fond des choses, qui pose beaucoup de questions. D'ailleurs, c'est intéressant ce qui se dit là-bas. Mais ce matin, l'UPAC perquisition à la SAAC, on savait que l'UPAC enquêtait, elle l'avait confirmé. La ministre avait envoyé le dossier à l'UPAC. Moi, quand je vois des perquisitions, je me dis que ça bouge. Et dans ce dossier-là, je suis content de voir ça. Parce qu'on a longtemps été inquiet comme membre du public à se dire, est-ce que vraiment le gouvernement va aller au fond des choses? Quand l'UPAC est impliqué, on peut se dire que oui, et c'est des bonnes nouvelles. Espérons qu'ils trouvent des éléments de preuve qui nous permettent d'en savoir plus. Le but, c'est pas de trouver des coupables, hein, c'est de savoir ce qui s'est passé. Alors, bravo à l'UPAC qui bouge, qui fait quelque chose, qui intervient. On aime voir ça.
Souvent, on trouve que c'est bon la clé pour une affaire qui est plus grosse que ce qu'on croyait, une perquisition du côté de l'UPAC. Est-ce que ça entache encore un gouvernement? Est-ce que ça entache encore des façons de faire? Est-ce que ça nous ramène dans des années sombres?
C'est sûr que ça nous ramène dans des années sombres. C'est sûr qu'on se dit aussi, est-ce que on a vraiment appris de ces années-là? Hein? Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que à partir du moment où est-ce qu'on commence à donner des contrats majeurs dans des domaines où est-ce qu'il n'y a pas d'expertise, puis ce qu'on a vécu à la commission Charbonneau, c'est un peu la même chose. Hein? C'est un peu le même genre d'histoire. On a des gouvernements qui donnent des contrats. L'expertise à l'interne, elle n'est pas assez poussée pour être capable d'évaluer les contrats qu'on donne en profondeur. Ou elle est tellement limitée à certaines personnes que ces personnes-là tombent un peu dans de mauvaises habitudes, donnent des contrats à des gens qu'ils connaissent, commencent à créer des systèmes qui peuvent avoir l'air plus, je dirais pas corrompus, mais mal gérés, disons-le au minimum. Et là, c'est un peu la même chose. On est dans des contrats numériques donnés par le gouvernement, l'expertise sans limité. Et là, on tombe dans une espèce de roue qui tourne. Alors, je pense que c'est important de faire la lumière là-dessus. Oui, il y a des enjeux réputationnels qui sont rattachés à ça.
Ouais.
C'est pas bon pour le gouvernement. C'est pas bon pour le respect des institutions. Hein. Notre confiance comme public envers les institutions et envers les gestionnaires de l'État est fortement touchée par des choses comme celle-là. Mais en même temps, on pourrait faire l'autruche et se mettre la tête dans le sable. Ça ne nous donnerait pas plus de solutions. Donc, je pense que c'est important de le faire, de voir les solutions, de voir ça. Il faut agir, par exemple.
Mais je croyais que c'était fini. Je croyais honnêtement qu'on avait avancé. Je suis peut-être désillusionnée. Là. Yannick, t'es-tu dans la même game que moi?
Ben, ce qu'on voit actuellement à la commission Galant, c'est que tout le monde essaie de se sauver les fesses. Là. Hier, je regardais Nadia Brière qui s'est présentée, qui est une vérificatrice de la SAAC, puis elle est venue dénoncer le fait que, bon, la culture à la SAAC était néfaste pour le projet, était en pleurs. Elle a dit que ça a été facile pour personne, ces dossiers-là, que le responsable qui était en place tentait d'étouffer à peu près toutes les alertes internes que elle et ses collègues voulaient faire. Ils ignoraient certains trucs aussi. Tu sais, Victor, on regarde ça et on se dit, ces gens-là, là, ils sortiront pas. Tu sais, quand tu vas voir le nom de Nadia Brière, elle cherche une job, tu vas voir le nom de Nadia Brière, tu vas regarder Nadia Brière, oh, elle a travaillé sur le dossier, ça clique, ça va lui nuire pour sa carrière future, là.
Ben, on entache des carrières complètes, c'est vrai, ça. Puis je regardais les vérificateurs, celles qui disaient qu'on lui avait craché au visage parce que le PDG actuel n'était pas très attentif à ses recommandations.
C'est elle.
Hier, on avait Mme Brière. Ouais, Mme Brière parlait de se faire cracher au visage, mais hier, elle pleurait aussi en parlant de ce qu'elle a vécu à l'interne. Et là, tu te dis, attends une seconde. Est-ce que les structures sont en place? Oui, les structures sont en place. Mais il y a un mot-clé dans tout ça s'appelle imputabilité. Il faut que les gens payent pour des conséquences professionnels pour les erreurs qu'ils font. L'erreur fait partie, moi j'appelle ça le privilège de ceux qui travaillent. Hein. On a le droit de se tromper. On n'a pas le droit de cacher ses erreurs. On n'a pas le droit justement d'induire le public en erreur lorsqu'on est un gestionnaire de l'État. Et c'est là où est-ce que cette commission d'enquête-là est très importante. Puis je vais séparer les deux parce que la commission d'enquête, c'est celle qui nous permet de savoir ce qui s'est passé, de comprendre le système, de comprendre la structure, de se dire où est-ce qu'on doit améliorer encore. Parce que Pascal, tu disais, je pensais que c'était fini. On pensait tous que c'était fini. Mais ça nous rappelle qu'il faut toujours recommencer.
Oui.
Parce que la gestion de l'État, c'est quelque chose qui doit se renouveler continuellement. On a parlé de construction dans les années 2010. On parle de numérique aujourd'hui. Mais tout ça est issu de quoi? Du fait que le numérique, c'est très inconnu, que ça coûte extrêmement cher et qu'à un moment donné, on rentre le bras dans un engrenage duquel on n'arrive plus à le sortir.
Mais
alors, c'est là où ces commissions d'enquête-là sont utiles.
Victor Henriquez analyse la politique. Tu connais les rouages de façon très importante. Est-ce qu'on pourrait ajouter l'insulte à l'injure en faisant en sorte que c'est des gens, des pions qui paient? J'appelle les pions ceux qui ne sont pas connus en politique, ceux qui ne sont pas un visage de la politique, pour qu'on puisse protéger en fait tout ce qui est l'institution gouvernementale en ce moment, puis qu'on dise oui, on a sanctionné ceux qui devaient, mais plutôt ceux qu'on ne connaît pas vraiment au public.
Non, puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça, dans, je sais que c'est la perception que ça donne aux gens. Hein. Puis loin de moi l'idée de condamner les gens, de se dire « Ah mon Dieu, c'est parce que les élus, ils se cachent derrière les fonctionnaires. » Mais la réalité, c'est que dans un gouvernement, les gestionnaires de l'État, ceux qui sont en charge de ces sociétés d'État-là, sont ceux qui sont responsables que les opérations se passent bien. Le rôle du ministre, c'est de poser des questions. Le rôle du ministre, c'est de mettre en place des lois. C'est de dicter des politiques ou des orientations. Puis après ça, c'est de s'assurer, par exemple, que les gens font les choses pour lesquelles ils demandent. Ce qui nous reste à savoir dans ce dossier-là, c'est est-ce que les ministres savaient à quel point ça allait mal et ont demandé ou ont fait la sourde oreille ou ont demandé de cacher des choses? Ce que, sincèrement, je pense pas. Ou est-ce que les gestionnaires en place ont décidé de ne pas tout dire au ministre et au gouvernement en place pour éviter de se faire taper sur les doigts ou pour éviter de se faire arrêter un projet dans lequel ils voulaient avancer? C'est ça la question qu'il faut se poser.
On va probablement voir Geneviève Guilbeault se présenter à la commission, puis elle va le devoir témoigner. Mais il y a déjà des choses qu'on sait. C'est que Geneviève Guilbeault était au courant que ce qu'il y avait à l'interne, ça n'avait pas de bon sens. Et souviens-toi, Victor, ça a passé dans l'actualité. On a révélé que c'est Geneviève Guilbeault qui avait le Twitter de la SAAC, puis qui tweetait elle-même les tweets pour la SAAC. Là. Je veux dire, c'est une ministre, là. C'est la vice-première ministre du Québec pendant la crise. C'est elle qui faisait le control damage sur le Twitter de la SAAC. Ça n'a pas de bon sens.
Puis Éric Kerr, lui, là-dedans.
Je t'amène une autre perspective. À quel point, à l'intérieur de la machine, les gens ne savaient plus quoi faire pour que la ministre soit obligée de prendre le Twitter et dire c'est ça qu'on va dire au public? Parce qu'il faut se rappeler que Geneviève Guilbeault, à la base, a été responsable des communications au bureau du coroner.
Oui.
C'est une chose qu'elle sait faire, c'est des communications en temps de crise. Et quand, tu sais, à un moment donné, tu réagis, tu vois ça, tu te dis, crime, il y a personne qui a l'air de savoir quoi faire. Et dans une crise, il y a des gens qui gèlent, Yannick. Alors, tu sais, je veux pas protéger la ministre là-dedans. Ce que je veux qu'on protège là-dedans, c'est les institutions. Moi, je suis un spécialiste en réputation, puis je sais à quel point la réputation, c'est fragile. Puis la réputation des élus, elle est fragile. Puis honnêtement, ils ont fait des erreurs dans ce dossier-là, je suis convaincu. Mais il y a une différence entre faire des erreurs et avoir sciemment caché au public à quel point c'était catastrophique. Moi, je ne pense pas que les ministres savaient à quel point c'était bordélique ce qui se passait à la SAC. Je pense, par exemple, qu'ils auraient dû le savoir ou ils auraient dû mieux le savoir. Et là-dedans, le secret, c'est la transparence. On doit augmenter le niveau de transparence de nos institutions publiques. On doit obliger à une plus grande transparence dans la gestion de ces organisations-là. Il y avait un juge américain qui disait « Le soleil est le meilleur des désinfectants. » Tu veux éviter des enjeux de gestion comme celui-là ou des enjeux de corruption dans l'appareil public? Sois transparent. Ça, il faut l'améliorer. Pour moi, ça fait partie des pistes de solution, mais honnêtement, on est encore au début de cette commission-là, puis tout ce travail-là, même le travail de l'UPAC. Bravo, ça avance, mais je pense que pour le reste, il va falloir attendre des conclusions pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, parce que tous les scénarios font du sens aujourd'hui, puis c'est pas tous les scénarios qui sont vrais.
Est-ce qu'on a l'impression que ça va déboucher au bout du compte, parce qu'on a déjà vu ça débouchait pas? Ensuite, Éric Kerr, on parle pas de lui du tout dans tout ce qui se passe. La ministre Guilbeault qui s'en va gérer les communications sur les plateformes de réseaux sociaux. Moi, je me demande, puis j'ai trouvé ça super intéressant ce que tu as expliqué, mais je me demande aussi si c'est un moment où c'est un genre de power trip, parce que là, on sent que tout s'écroule, puis qu'on se fait taper sa tête quand c'est pas notre faute nécessairement, de ce qu'on comprend de tes paroles, du sens où c'est vraiment les gestionnaires qui travaillent sur les projets. Côté transparence, ça doit donner encore moins envie à un élu de l'être, parce que quand tu n'as pas le contrôle sur ce qui se passe en dessous...
Ouais. Mais je pense que c'est la panique, c'est le fait qu'elle voulait aider. C'est rare, tu vas m'entendre défendre la ministre Guilbeault, là, mais c'est la panique. Elle voulait aider, elle voulait faire sa part, mais de dire qu'elle n'était pas au courant de rien, elle pourrait pas se présenter à la commission Galant et dire « Non, non, moi, j'étais pas au courant de rien. » C'est clair qu'elle a eu vent que ça allait pas.
C'est sûr qu'elle a su que ça allait pas. Là, ce que je veux comprendre, c'est à quel point elle savait que ça allait pas, à quel point elle avait connaissance de l'ampleur, puis à quel point on lui a donné l'information. Parce qu'encore une fois, tu fais confiance à tes gestionnaires d'une certaine façon. Est-ce qu'on devrait, tu sais, si on se dit on fait pas confiance aux gestionnaires, ben là, c'est parce que ça veut dire que la reddition de compte doit être mieux faite. Tu sais, je sais que c'est très complexe comme situation, puis on va tous avoir cette tendance à se dire comment ça que le gouvernement s'est trompé encore là-dessus. Mais faut juste rappeler aux gens que regardez ce qui s'est passé après Charbonneau. Il y a eu des améliorations. Notre système va mieux. On a appris de ces choses-là. On va continuer à apprendre. Il y a d'autres projets numériques qui sont en cours dans le gouvernement qui vont apprendre la situation à la SAC aussi. Alors, tout ça a pour but de gérer mieux les projets. Et l'imputabilité va être importante parce que, on le rappelle, si les gens ont pas de conséquences, ben ça, c'est comme tout dans la vie. Tu donnes pas de conséquences à tes enfants quand ils font un mauvais geste, ils vont continuer à faire le mauvais geste.
Sondage Palace Data, l'actualité et Québec 125 qui est sorti hier. Je le trouve hallucinant, ce sondage-là. À la grandeur du Québec, les deux principaux partis qui dominent, c'est le Parti québécois. Jusqu'à maintenant, ça, il n'y a pas de surprise. Mais le fait que l'homme à la belle chevelure est devenu chef du Parti libéral du Québec semble beaucoup aider le Parti libéral du Québec. 26 % contre 31 pour le PQ. Victor, c'est énorme.
C'est
la débandade de la CAQ, c'est juste hallucinant. Là. La CAQ est en train de se battre avec le Parti conservateur du Québec. Là.
C'est-tu superficiel, ça?
Superficiel,
ces résultats-là. C'est-tu parce que là, enfin, le Parti libéral a une redirection X, mais vraiment superficielle avec la venue de Pablo Rodriguez?
Ouais. Il y a plusieurs éléments. D'abord, le sondage se faisait durant la fin de semaine. Moi, j'ai entendu parler de gens qui ont reçu l'appel durant la fin de semaine. Donc oui, je pense qu'il y a un effet Rodriguez, mais je pense que l'effet était peut-être pas complété aussi. J'ai hâte de voir les prochains sondages. Alors, ça, c'est une première photo. Hein. Un sondage, c'est une photo de l'humeur des gens. Et comme tu le dis, Yannick, ce qu'on voit dans cette humeur-là, d'abord, c'est la chute de la CAQ. La première vague où les caquistes ont perdu des points, c'était des péquistes qui retournaient au Parti québécois. Là, on est en train de voir la deuxième vague qui sont des anciens libéraux qui retournent au Parti libéral. C'est pour ça que vous voyez la CAQ descendre de cette façon-là. Et pour François Legault et son parti, c'est catastrophique parce que ça les amène dans une réflexion très complexe à se dire est-ce que si les deux autres partis remontent, on est un peu condamné à la troisième place. Du côté du gouvernement, on aura des réflexions à faire stratégiques cet été, à dire c'est quoi la meilleure façon de se relever. Est-ce qu'il y a un remaniement ministériel? Il y a des rumeurs même d'élections anticipées. Il y a plein de scénarios sur la table. On va entendre beaucoup de choses, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que François Legault a décidé qu'il restait, parce que ça aurait pu être une réflexion, dire est-ce que le chef doit changer. Il l'a répété assez souvent qu'on va finir par le croire. Il a dit « Je serai de la prochaine élection ». Je pense qu'on doit le croire, il va être là. Mais c'est sûr que pour lui, c'est très inquiétant. Pour le PQ, ben, on est dans, encore dans une belle position, mais attention, les libéraux montent à une zone de 18-19% chez les francophones. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que faut savoir que les libéraux, pour gagner une élection, ont besoin de 20, 21, 22, 23% maximum. Ils gagnent une élection à cause du vote anglophone puis allophone à travers la province. Mmh. Donc, les libéraux sont pas loin d'être capables de rattraper le PQ. On a un retour des partis traditionnels, ça, on peut le voir. Et quels que soient les prochains chiffres, on sait qu'on va avoir une élection, qu'on va avoir une vraie course à la prochaine élection provinciale.
Victor Henriquez, je sais que ça va te surprendre, là, l'affirmation que je vais faire, mais il y a beaucoup d'opportunistes en politique, que ce soit pour les gens qui sont députés, mais aussi pour le staff qui est en place, qui travaille dans l'administration du parti puis du gouvernement. Avec ce type de sondage-là, j'ai l'impression que la CAQ va perdre de bons éléments aux prochaines élections, avant les prochaines élections.
Tu penses que ça va migrer au libéral?
Ouais, j'imagine qu'ils vont aller soit pour le Parti libéral ou soit ils vont aller pour le Parti québécois. Le Parti québécois, c'est une très petite équipe, soit dit en passant. Ils travaillent fort là-bas. Là.
Ils travaillent très fort. Ils sont très peu députés. C'est une très petite équipe. On dit que l'esprit de corps est très fort. Hein. C'est cette espèce d'esprit de mission que tu as dans des plus petites équipes. Eux autres, il va falloir qu'ils gèrent la croissance. Ça va être ça la grande difficulté. On l'a vu cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu la sortie de la députée de Terrebonne sur les funérailles nationales, qui au début a dit « on fera pas de funérailles nationales à l'église pour respecter la loi sur la laïcité ». Puis le chef a dû corriger un peu la situation en disant quelques heures plus tard « ce sera la famille de choisir ». Ce genre de choses-là, c'est le grand risque pour le Parti québécois. Plus il va y avoir de gens qui vont prendre la parole, plus il peut y avoir des contradictions, plus il peut y avoir des danses de cha-cha, on avance, on recule. Et ça, c'est le grand défi pour le PQ. Mais tu l'as dit du côté de la CAQ, oui, il y a des gens qui vont partir pour d'autres partis. Au niveau du staff, il y a aussi des gens qui vont fatiguer d'avoir fait 7-8 ans au gouvernement, vont aller faire autre chose. Et ça, c'est tout à fait normal. La vie avance, les gens ont des familles, les gens vivent une expérience politique. Mais oui, la CAQ va se retrouver avec moins d'éléments, moins de stratèges, moins d'équipes d'expérience. C'est bien de renouveler, mais ça vient avec le fait que c'est des gens qui sont un peu plus verts. Alors, les défis vont être nombreux pour la CAQ, mais il y a une chose, par exemple. Moi, j'ai fait de la politique jusqu'en 2007. En 2003, je l'assume, j'étais avec les libéraux de Jean Charest, pour ceux qui ne savaient pas. Et en 2002, Jean Charest était derrière dans les sondages. L'ADQ gagnait 4 élections partielles. Les gens disaient, l'ADQ va gagner la prochaine élection. En mars de l'année suivante, Jean Charest gagnait ses élections. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut aller extrêmement vite, les changements en politique. Alors là, on a une photo, mais il ne faut pas s'asseoir là-dessus. Tous les partis et tout ça peut bouger encore dans les prochains mois. Ça va rendre l'automne extrêmement intéressant. Et même l'été, donc cet été, vous aurez plein de choses à jaser là-dessus parce que l'été va être occupé à temps.
Parce que les sondages, bon, il y en a qui... Les politiciens, ils disent qu'ils croient aux sondages quand ça les favorise, là. Mais, tu sais, je regarde, il y a Bernard Drainville qui, lui, a lâché une grosse job à radio à plusieurs centaines de milliers de dollars pour se lancer en politique dans l'espoir, peut-être, de remplacer François Legault. Ouais. Là, ça, visiblement, ça se fera peut-être pas avant les prochaines élections. T'as Martine Biron aussi qui semblait avoir des aspirations. On a Geneviève Guilbeault qui aurait aussi testé ses appuis à la Coalition Avenir Québec.
Un bout Simon-Jolin Barrette aussi.
Simon-Jolin Barrette, le robot Simon-Jolin Barrette, monsieur parfait.
Mais je ne peux pas croire qu'ils ne savent pas, quand ils se lancent en politique, qu'il y a des risques que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas.
Mais ces gens-là veulent challenger le trône, mais encore 4 ans avec un chef qui n'est plus désiré par les Québécois, ça va faire en sorte, un peu comme tu dis, Victor, qu'il y en a qui vont peut-être juste choisir d'aller travailler dans les médias, faire quelques chroniques à Radio-Canada ou à nouveau pendant quelques années dans l'espoir de se joindre à un autre parti?
Ben, c'est sûr que ça va amener beaucoup de grenouillage. C'est un peu la théorie des gens qui parlent d'une élection anticipée, c'est justement pour ça. Il y a des gens en ce moment, des analystes qui disent ce serait peut-être bon pour la CAQ de déclencher une élection à l'automne prochain pour éviter tout ce grenouillage qu'il risque d'y avoir dans la prochaine année, de gens qui vont dire « Hey, peut-être que le chef a atteint son maximum ». Parce qu'à un moment donné, après 8 ans, les gens sont tannés de voir le même visage. On appelle ça l'usure du pouvoir. C'est une question de perception. C'est pas une question d'efficacité, que tu sois bon ou que tu sois mauvais. À partir d'un moment, il y a des gens disent « Ok, on a besoin de changement ». Est-ce qu'on est en train de rentrer là-dedans? Je pense que oui, mais ça peut encore bouger. Pour ce qui est des gens qui grenouillent, s'il y a une élection dans les prochaines 6 mois, c'est une chose. S'il y a une élection à l'octobre prochain, M. Legault va rester. Et on verra qui gagne cette élection-là et qui reste en poste. Et là, ce sera le temps de penser à un nouveau leadership parce que M. Legault ne restera pas s'il a une défaite. Maintenant, s'il est réélu, ben, c'est les gens qui vont choisir. Et ça, c'est la beauté de notre démocratie. Au bout de la ligne, c'est les gens qui nous écoutent qui auront le choix, qui vont décider de qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Et la CAQ aura à voir comment elle fait pour survivre à une défaite, si défaite il y a. On rappelle que c'est la première fois qu'un tiers parti gagne une élection provinciale dans notre époque. Et donc, gagner une élection, c'est une chose, mais rester après une défaite, c'est une autre. Ça, c'est ce qu'on pourra peut-être observer de la CAQ dans les prochaines années.
Puis pour ce qui est des partis qui sont en bas de classement en sondage, là, je vois Québec solidaire qui semble avoir énormément de difficultés là, avec un Gabriel Nadeau-Dubois qui n'a pas été là dans les derniers mois. Changement à la... D'un co-porte-parole, peut-être même deux, ils vont faire quoi? T'as-tu l'impression qu'ils vont se ressaisir?
Moi, je pense que le Québec solidaire va avoir le même chemin que le NPD au niveau fédéral. Ce qui va arriver avec Québec solidaire, selon moi, c'est que le vote solidaire qui veut gouverner, celui que Gabriel Nadeau-Dubois voulait amener sur le dessus de la paix en disant peut-être qu'on doit aussi convaincre plus de monde, ces gens-là vont s'en aller au Parti québécois. Et moi, je m'attends à ce que Québec solidaire retourne dans la zone du 10% ou peut-être moins, parce que je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont se relever de la crise de leadership qui s'en va avoir en ce moment. Et la réalité, c'est qu'on l'aime ou pas, Gabriel Nadeau-Dubois reste un politicien de très, très haut niveau. Tu ne perds pas un leader comme celui-là sans avoir des conséquences. Je pense que du Québec, côté de Québec solidaire, les prochains mois seront très, très, très difficiles.
Je regarde les deux solitudes, Québec et Montréal. Il y a une grosse différence pour ce qui est des intentions de vote. À Québec, en majorité, c'est le Parti québécois qui passerait s'il y avait des élections demain matin. Et le Parti conservateur du Québec fait bonne figure. Là, c'est 31% pour le Parti québécois, 30% pour le Parti conservateur. Et Montréal, là, la tendance est un peu inversée. Le Parti conservateur diminue à 10%. On est toujours avec le Parti québécois à Montréal, mais 30% pour ce qui est du Parti libéral, seulement 10% pour ce qui est du Parti conservateur. C'est weird à quel point les gens de Montréal et Québec sont pas pareils. Hein?
C'est vrai que les gens de Montréal et Québec sont différents, mais on s'en ressemble plus qu'on le pense, Yannick. Hein? Puis d'ailleurs, à Québec, moi je m'attends à voir les libéraux courir après le vote conservateur. C'est ça leur objectif. Le vote du Parti conservateur à Québec, c'est pour les libéraux le vote qu'ils veulent aller chercher. Donc, quand tu vas entendre Pablo Rodriguez avoir un discours plus sur la responsabilité économique, sur la saine gestion des finances publiques, des choses comme ça, tu vas voir que c'est aux conservateurs de Québec qui parlent. À Montréal, j'ai l'impression que ça va bouger aussi beaucoup à cause des allophones, des anglophones. Ça reste que Montréal, c'est un endroit où les libéraux ont une garantie de 25 comtés minimum. Alors, c'est ça qui fait que Montréal, les chiffres sont ce qu'ils sont, mais à Québec, ça va être intéressant parce que ça va dépendre d'une chose, c'est le résultat dans Arthabasca. Si Éric Duhem gagne Arthabasca, tu vas prendre un élan du côté du Parti conservateur, et là, je m'attends à ce que ce 30%-là se reflète en comté concrètement. Rive-Sud du Québec, par exemple, je m'attends à ce qu'il y ait des victoires dans ce coin-là, en Beauce, dans la région de Québec en général, il risque d'avoir des gains pour les conservateurs. Si Éric Duhem ne gagne pas la partielle, perd cette partielle-là, là, je pense qu'il pourrait frapper un mur dans cet élan de montée et on pourrait se retrouver avec des électeurs conservateurs qui vont dire « OK, ben, ce serait quoi mon deuxième choix? » Et qui, là, vont aller explorer d'autres partis. Est-ce que ça va être un retour dans la CAQ? Est-ce que ça va être les libéraux? Est-ce que ça va être le PQ? Ce sera à suivre de voir comment est-ce que les conservateurs de Québec, quelle va être leur priorité pour les prochaines années. Ça dépend aussi de ça, où est-ce qu'ils vont aller, s'ils ne vont pas au Parti conservateur.
Mon cher Victor, je pensais que tu allais terminer la chronique politique en disant que Québec et Montréal se ressortent, mais encore plus dans les dernières heures, parce que tu es un grand fan du Ashton qui s'en va s'installer à Montréal, mais tu nous as encore une fois prouvé ta pertinence. Merci d'avoir été là.
Je suis tellement heureux qu'Ashton s'en vienne en ville, vous comprenez pas, ça vient de changer ma vie. Je vais aller vous voir pareil à Québec. Mais, en plus, t'as 15 minutes de chez nous. C'est pas bon pour la ligne, mais mon Dieu que c'est bon pour le bonheur. Alors, merci à Ashton de s'en venir chez nous. On est bien contents que vous nous prêtiez ça, la gang de Québec.
Mais t'es invité quand tu veux à Québec, cher ami. On t'apprécie beaucoup. Les auditeurs t'apprécient beaucoup, Victor.
Merci à tous.
Au revoir. Bye-bye. Victor Henriquez, qui est un analyste politique à qui on aime bien jaser. C'est vrai que Québec et Montréal, des fois, ça peut être particulier au niveau des votes. Hein. Pour ce qui est de Montréal, il y a beaucoup de personnes il y a beaucoup d'anglophones, il y a beaucoup de gens immigrés aussi qui habitent à Montréal, puis eux ont toujours été plus près des partis libéraux. Parti conservateur à Montréal, ça passe pratiquement pas, seulement 10%, tandis qu'à Québec, ils sont à égalité à 1% avec le Parti québécois.
Oui, mais tu restes aussi avec, mettons, des enjeux qui ont prôné aux années 80-90, début 2000, là, en termes de politique à Montréal. Je veux dire, tout était en train de se développer. Tu avais l'arrivée, oui, de l'immigration, mais tu avais des enjeux sociaux qui étaient beaucoup plus tirés vers la gauche. T'sais. C'est encore teinté de ça. Ça s'en vient qu'à changer parce qu'avec le vivre ensemble, il y a énormément de complexité sur l'île de Montréal en ce moment. Il y a des gens qui ne reconnaissent plus leur ville puis qui disent « Oh, OK, on a-tu pris soin de cette ville-là? » Puis hier, quand je te disais que j'ai passé la soirée avec Denis Coderre, on a jasé de Montréal beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ce qu'il dit, c'est qu'ils ont voulu essayer d'aller à gauche, énormément à gauche sur des enjeux, puis se rendre compte qu'officiellement, c'est un bon mélange des deux qu'il faut en politique.
T'es-tu sûr qu'est-ce que Coda foutait à Québec, finalement?
Il est allé voir des chroniqueurs, des collaborateurs avec qui il fait affaire une fois de temps en temps.
OK. On me mère.
On me mère.
On me mère. 13h07, vous avez des choses à nous dire, c'est par texto, 88 971 101. Après la pause, c'est notre ami Louis Gauthier, chroniqueur international, qui va être là dans les prochaines secondes.